Bienvenue dans Questions de recherche, questions d'actualité, le podcast de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100% santé propose à toutes les personnes bénéficiant d'une complémentaire santé un plus large choix d'équipements et de soins en audiologie, optique et dentaire, qui sont donc pris en charge à 100%. L'objectif étant de garantir l'accès pour tous à des soins de qualité et de renforcer la prévention. Alors ce podcast s'intéresse plus spécifiquement aux aides auditives. La réforme permet une prise en charge à 100% de différents types d'appareils auditifs, une prise en charge qui repose à la fois sur le remboursement par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire et le plafonnement des prix de vente. Alors quel est l'impact de la réforme du 100% santé pour les usagers d'aides auditives et comment se situe la France par rapport à d'autres pays européens, à la fois en termes de financement et d'accès à ces aides auditives? Pour y répondre, nous accueillons Sylvain Pichetti et Denis Reynaud. Sylvain, bonjour.
Bonjour Anna.
Vous êtes économiste et directeur de recherche à l'IRDES et vous venez de publier, avec Maud Espagnac et Alice Destève de Pradel, une étude sur le financement et l'accès aux aides auditives en Europe qui compare la France à l'Angleterre, la Belgique et la Suède. Denis, bonjour.
Bonjour Anna.
Vous êtes économiste et directeur de l'IRDES et vos travaux de recherche portent notamment sur l'assurance maladie et la régulation du système de soins. Pour commencer, je me tourne vers vous, Sylvain. Tout d'abord, qui est concerné par les aides auditives et pour répondre à quels besoins?
80% des Français équipés d'aides auditives sont âgés de 65 ans et plus. Mais les besoins concernent aussi une population plus jeune, en âge d'étudier ou de travailler. Pour toutes les personnes, il y a un enjeu fort de l'accès à l'équipement pour maintenir une participation sociale et aussi un maintien en bonne santé. Pour les plus jeunes, on pourrait ajouter qu'il y a aussi un enjeu de participation au marché du travail. Dans l'accès aux aides auditives, il y a une vraie problématique d'équité, car toutes les personnes qui ont des besoins ne sont pas forcément équipées. Certaines peuvent ne pas avoir conscience des conséquences du déficit auditif sur leur santé, d'autres peuvent être freinées par des raisons financières.
Pouvez-vous nous dire quel modèle d'aide auditive on trouve sur le marché et à quel coût ?
Il existe une grande diversité de modèles sur le marché. Il y a un premier niveau du marché sur lequel on va trouver des appareils qui vont assurer un traitement sonore de base. Avec un nombre limité d'options, ces appareils vont fonctionner essentiellement sur pile. Quand on monte en gamme, on va avoir des appareils qui vont assurer un traitement sonore plus sophistiqué, on aura un plus grand nombre d'options et puis des batteries rechargeables. Il faut savoir que les appareils existent sous différentes formes. Des contours d'oreilles qui sont plus robustes mais qui sont aussi beaucoup plus visibles que des modèles plus discrets comme les modèles intra-auriculaires ou les micro-contours d'oreilles. Quant aux tarifs, ils sont extrêmement variables. On peut passer d'un coût qui est très faible au Royaume-Uni de 50 euros pour le système national de santé, pour le NHS, pour les modèles de base du panier public qui sont mis à disposition sans reste à charge pour les usagers, à des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 2000 euros, même au-delà, sur le marché privé, en incluant le service, c'est-à-dire l'accompagnement et le suivi, pendant une période de 4 ans.
Denis, comment sont financées les aides auditives en France et dans les pays européens que vous avez étudiés ?
Les modèles les plus onéreux sont entièrement ou majoritairement à la charge des usagers, alors que les modèles de premier niveau sont généralement sans reste à charge dans les pays étudiés, que ce soit via une fourniture publique comme au Royaume-Uni ou en Suède, ou financés entièrement par l'assurance publique comme en Belgique. A l'inverse, en France, jusqu'en 2019 avant la réforme, même les modèles de premier niveau laissaient un reste à charge important aux usagers.
Cette réforme française du financement des aides auditives, en quoi consiste-t-elle plus précisément ?
Elle s'inscrit dans la réforme du 100% santé qui vise à améliorer l'accès aux prothèses dentaires, lunettes et aides auditives en s'appuyant sur la complémentarité entre la sécurité sociale et les assurances complémentaires privées. Et on peut d'ailleurs qualifier à cet égard cette réforme de très française. Sur un panier de soins défini, les remboursements de la sécurité sociale et des complémentaires prennent en charge toute la dépense pour arriver à un reste à charge nul. Pour les aides auditives, la réforme prévoit un doublement de la participation de la sécurité sociale par rapport à la situation antérieure avant la réforme. La réforme définit deux paniers, un panier 100% santé avec un prix limite de vente de 950 euros et un panier libre mais avec un plafond de remboursement pour les complémentaires santé, afin d'éviter les effets inflationnistes qu'on a pu observer dans le passé, par exemple sur les prix des lunettes. Pour les prothèses du panier 100% santé, la sécurité sociale prend en charge un quart de la dépense et les assurances privées, les trois quarts. Pour les modèles les plus coûteux, d'autres modes de financement peuvent exister au titre de la prestation de compensation du handicap ou pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap.
Sylvain, peut-on dire que cette réforme a amélioré l'accès aux aides auditives ?
Oui, on a enregistré une hausse de 73% des volumes entre 2019 et 2021. Et donc près d'une personne sur deux déclarant une déficience auditive en France est désormais équipée. Donc en fait, on a un meilleur taux d'équipement qu'en Belgique et en Suède, même si on reste un petit peu en dessous de l'Angleterre. Et puis ce qu'on peut dire également, c'est que 40% des achats concernent le panier 100% santé et donc sont sans reste à charge pour les bénéficiaires d'une complémentaire santé.
Et donc par rapport aux autres pays, comment se situe le panier français du 100% santé ?
Dans notre étude, on montre que le panier français, il est beaucoup plus diversifié que dans les systèmes publics de mise à disposition. En France, on a accès à tous les types d'appareils. En Angleterre, ça n'est pas le cas. Les usagers vont avoir accès uniquement à des contours d'oreilles. Il n'y aura pas forcément de réponse du NHS pour les usagers qui veulent des appareils plus discrets, comme des modèles intra-auriculaires ou micro-contours d'oreilles. En Suède, il existe une offre plus diversifiée qu'en Angleterre, mais il y a une forte variabilité régionale, car les appels d'offres sont passés au niveau régional. Si on parle maintenant de la qualité du panier 100% santé français est équivalente à celle de la moyenne gamme d'il y a 5 ans. En Angleterre, on a clairement une qualité inférieure, c'est ce que nous ont dit les experts anglais qu'on a interrogés. Ils estiment qu'il y a un retard technologique d'environ 10 ans. La qualité des aides suédoises, elle est en revanche meilleure que la qualité anglaise.
Le secteur des aides auditives, c'est un secteur où les innovations technologiques sont fréquentes. Comment peut-on en tenir compte ?
Le panier doit être régulièrement ajusté pour rendre des innovations qui présentent un intérêt sanitaire accessibles. Un autre enjeu, c'est de mesurer la satisfaction des usagers pour évaluer l'adéquation du panier aux besoins et s'assurer que les aides auditives du panier sont bien utilisées. Mais ça, aucun des pays qu'on a analysés ne le fait véritablement.
Denis, vous avez qualifié cette réforme du 100% santé de très française. Pourquoi ?
Eh bien parce que l'articulation entre assurance publique et assurance privée est très spécifique à la France. En France, l'assurance privée finance 13% des dépenses de santé, ce qui est une place plus importante qu'en la plupart des pays comparables. 96% de la population est couverte par une complémentaire santé, et la complémentaire santé solidaire permet l'accès des plus pauvres à l'assurance. Et enfin, l'assurance privée intervient sur le même panier de soins que la sécurité sociale pour des soins délivrés aux mêmes individus par les mêmes professionnels de santé. Elle est complémentaire à la sécurité sociale. Dans les autres pays, les assurances privées sont généralement d'une autre nature. Par exemple, le panier de soins peut être différent entre l'assurance publique et l'assurance privée. On parle alors d'assurance supplémentaire. Ou l'assurance privée peut donner l'accès à des professionnels de santé privés pour contourner le système public. On parle alors d'assurance duplicative. Ou l'assurance privée peut couvrir une population spécifique non couverte par l'assurance publique. On parle alors d'assurance substitutive. En France, l'assurance est donc complémentaire, ce qui la distingue vraiment des autres pays.
La réforme du 100% santé renforce donc cette complémentarité entre assurance publique et privée ?
Oui, c'est vraiment une exception française. En conséquence, l'accès aux aides auditives s'appuie surtout sur l'accès à une assurance privée volontaire, alors que dans les autres pays, les assurances privées n'interviennent pas dans le financement. Et pour cause, les dépenses d'aides auditives présentent en effet peu d'aléas. Quand le besoin apparaît, que ce soit dès l'enfance ou dans la grande majorité des cas seulement à un âge avancé, il est ensuite permanent et les dépenses sont certaines. Les personnes n'en ayant pas potentiellement besoin n'ont donc aucun intérêt à s'assurer. Pour pouvoir mutualiser efficacement le risque, l'assurance doit donc être obligatoire. C'est donc une consommation de soins en théorie peu assurable par une assurance privée volontaire, et la réforme du 100% santé aide auditive revient en réalité à contraindre les assureurs privés à solvabiliser cette dépense par le biais de la régulation des contrats responsables.
Et quelles en sont les conséquences pour la population ?
Eh bien, l'accès aux soins dépend de l'accès à une assurance complémentaire privée. La réponse aux besoins n'est donc pas universelle. Les principaux usagers d'aide auditive sont les personnes âgées qui font face, sur le marché de l'assurance individuelle, à des primes très chères car elles dépendent de l'âge. Par exemple, à 85 ans, la prime moyenne d'une complémentaire santé est de 150 euros par mois, ce qui représente environ un huitième des revenus pour les personnes situées juste au-dessus du seuil de revenus de la complémentaire santé solidaire. En conséquence, 2,5 millions de Français, et notamment 11% des retraités pauvres, ne bénéficient d'aucune couverture complémentaire. Et il est à craindre que cette proportion augmente compte tenu d'une possible augmentation du ticket modérateur, qui se traduirait inévitablement par une nouvelle hausse des primes d'assurance.
Dans ce contexte, comment peut-on favoriser durablement l'accès aux audioprothèses ?
À mon avis, deux orientations sont souhaitables. On pourrait augmenter la part de financement de la sécurité sociale pour faire plus reposer l'accès, comme dans les autres pays étudiés, sur un financement public universel. Mais ça peut sembler à rebours des orientations actuelles dans un contexte de déficit public. Ou alors, à minima, on pourrait élargir l'accès à la complémentaire santé solidaire des retraités de revenus modestes pour en protéger un plus grand nombre des futures hausses de primes d'assurance. Et reconnaître que, dans ce cas, pour ceux qui ne sont pas protégés par la complémentaire santé solidaire, l'accès n'est en réalité pas universel, mais dépend de leur choix d'assurance.
Merci Denis et Sylvain pour cet échange.
Merci Anna.
Merci Anna.
Podcast de l'IRDES numéro 4, enregistré en novembre 2024, propos recueillis par Anna Marek, réalisation Aude Sirvin.